Bonjour, je suis Boris Martin, rédacteur en chef de la revue Alternative Humanitaire. Pour ce podcast, je vais rencontrer le grand photographe Reza et Plantu, le non moins grand dessinateur de presse qui fut à la une du journal Le Monde pendant presque 50 ans. Plantu, Reza, bonjour.
Bonjour.
Merci d'abord d'avoir accepté notre invitation dans le cadre des entretiens d'Alternative Humanitaire. Vous venez de publier aux éditions Gallimard un beau livre, qui s'intitule « Regards croisés ». Dans ce livre, vous revisitez environ 80 de vos photographies et de vos dessins respectifs que vous avez fait tout au long de vos deux carrières. Ça vous permet d'aborder des événements ou des problématiques très variées. Ça va de la révolution islamique en Iran en 79, au génocide des Tutsis du Rwanda en 1994, l'environnement, le réchauffement climatique, la situation des femmes, des enfants dans le monde. Mais c'est autant un travail de mémoire que de création, je dirais. C'est-à-dire que chaque couple de photos et de dessins permet de revenir sur un événement, comme je le disais. Mais l'alliance de la photo et du dessin donne naissance à une œuvre nouvelle, singulière, qui rappelle un peu certains collages d'artistes. Voilà, donc c'est un très beau livre pour ça, qui va au-delà, j'ai envie de dire, du livre, soit de photographie, soit du dessin. Il faut aussi saluer l'excellent texte d'introduction de Pierre Bongiovanni, qui offre son propre regard de critique d'art sur cette alliance entre les photos de Reza et les dessins de Plantu. Et pour entamer la discussion avec vous deux, ce qui est frappant lorsqu'on parcourt le livre, c'est la proximité, je trouve, de vos regards et la manière dont vos analyses, d'une certaine manière, se complètent, elles s'alignent. Pourtant, vous vous connaissez depuis une dizaine d'années, je crois, un peu plus. Vous allez nous dire, raconter ça. Comment s'est fait votre rencontre? Qu'est-ce qui fait que vous avez fait ce livre ensemble? Allez, on commence par Reza.
Notre rencontre, je crois que ça date de 40 ans, peut-être. C'est-à-dire que le Jean, il dessine dans le journal Le Monde depuis 50 ans. Et moi, j'ai commencé à voir le journal Le Monde en Iran dans les années, fin des années 70, disons, pendant la révolution. Et je me souviens très bien les premières fois que j'ai commencé à voir les dessins de Jean. Or, il y avait plein d'autres dessins, plein d'autres dessinateurs que je connaissais leur travail. Et ça, il y avait quelque chose très fort, aussi bien au point de vue artistique, les dessins. Je suis architecte de formation, donc je connais ces dessins, les sketchs, qu'est-ce que ça veut dire quand quelqu'un y fait. Donc comparé au travail des autres artistes ou dessinateurs que je voyais, je voyais déjà un très grand artiste. Et ensuite, le contenu, c'était incroyable de voir que presque il dit par l'humour ce que moi je pense ou ce qui se passe sur terrain. Parce que il faut savoir que quand vous êtes sur terrain, sur un événement, c'est pas du tout la même chose que c'est rapporté dans les médias normalement. Dans les médias, n'importe quel média, vous avez tellement des filtres qui emmènent que finalement, le sujet qui est écrit, c'est pas vraiment 100% proche de ce qui se passe sur terrain. Ça suffit pour comprendre ça, de voir le même jour, la même date, le même événement. Vous prenez Le Figaro et Libération et Le Monde, les trois journaux, vous lisez comment ils ont raconté une histoire, la même histoire. Et vous allez voir, c'est trois histoires différentes en général. Donc, le travail que Jean y faisait, par l'humour, je voyais que c'est tellement proche de ce qui se passe sur terrain et qu'on ne le dit pas dans les journaux. Moi, en photographie, je fais la même chose, c'est-à-dire que normalement, j'essaie de montrer un angle des événements qui est propre à mon regard, mais en même temps, c'est pas quelque chose qui est raconté dans grande partie dans les médias, comme pour les raisons que je vous disais. Et donc, notre connaissance, ça va très loin. C'est, avant tout, c'est une connaissance visuelle et intellectuelle qui existe. J'imagine que Jean aussi, il avait vu mes photos il y a 40 ans, 30 ans, avant de me connaître de toutes mes photographies. Donc, entre les visuels, comme entre les écrivains, comme entre les poètes, il y a toujours, avant tout, cette connaissance de l'un et l'autre par l'œuvre qui les rapproche. Et après, évidemment, physiquement, on s'est rencontrés il y a 15 ans, et c'était évident cette amitié, parce qu'il y a tellement une forte relation intellectuelle au monde philosophique que nous avons, à notre monde, à tout ce qu'on fait, ce qui fait que vous trouvez que ces photos et ces dessins, comme si ils étaient faits ensemble, comme si on avait travaillé ensemble. En réalité, non. En réalité, c'est parce qu'intellectuellement, nous avons la même pensée. Et c'est pour ça que, finalement, on est arrivé à ça. Mais les détails de ça, c'est Jean, l'idée de Jean, enfin, faire ce livre. Et donc, il vous parlera de cette idée, comment il a eu et comment il a fait.
Oui, il y avait une complicité déjà à la base, hein, bien sûr, parce que je suis très sensible à ton travail de photographe, et ça fait longtemps que je regarde, mais admirativement, comme ça, les photos, ah, c'est Reza, c'est bien, ça me plaît, ouais, il y a une ambiance, il y a presque un parfum, on sent presque la poussière du désert dans certaines photos, en Égypte, en Afghanistan, je me dis, ah, tiens, c'est... Mais comme ça, je suis un regardeur admiratif. Et puis après, on se rencontre, on parle. Moi, je me dis, j'aimerais bien, moi, mélanger, j'osais même pas mélanger. J'aimerais bien mettre mon dessin, sa photo, mon dessin. Et puis après, on se parle, je dis, moi, j'aimerais bien, on pourrait peut-être faire des expos, un livre. Il me dit, oui, oui, oui. Et puis moi, je propose des mariages. Et puis là, ma grande surprise. J'ai deux surprises. La première surprise, c'est qu'il me dit « Mais vas-y, rentre plus dans mes photos. » Je dis « Mais quoi, tu veux dire quoi, rentre plus dans mes... » Il dit « Mais va, au lieu de les mettre l'un à côté de l'autre, vas-y, rentre dedans. » Alors, avec la peinture à l'huile, avec une palette graphique, je sais faire, hein. Il n'y a pas de problème, mais je n'osais pas, c'est ces photos. Quand il fait « Commandant Massoud », je ne veux pas rentrer comme ça dans la photo du commandant Massoud. Il me dit « Oui, vas-y, fais-le. » Bon. Et la deuxième surprise, et c'est là où on était fait pour s'entendre, c'est que tu es de culture musulmane. Hein. Oui. C'est ça. Hein. Moi, je suis de culture chrétienne, mais je ne suis pas croyant. Mais bon, mais je me suis toujours débrouillé pour, avec les copains dessinatrices, dessinateurs, pour mélanger des dessinateurs chrétiens, juifs, musulmans. Ça, c'est mon truc depuis très longtemps. Et il me raconte qu'en Azerbaïdjan, il y a un endroit, où d'ailleurs, je vais peut-être me retrouver avec toi un de ces jours, c'est qu'il y a un endroit, quand il y a une fête juive, ils invitent les musulmans et les chrétiens. Quand il y a une fête chrétienne, ils invitent les musulmans et les juifs. Je me dis, mais attends, mais c'est ce que j'aime, moi. Et puis il y a plein de photos qui racontent ça dans le bouquin. Et je me dis, bah voilà, en fait, c'est un mariage. J'utilise le mot mariage aujourd'hui, mais en fait, on était fait pour se retrouver sous forme d'un livre, sous forme d'une expo. Mais il y avait la complicité était déjà. C'est pas un hasard qu'on se soit croisés. Et d'ailleurs, on va se marier dans pas longtemps. Oui, t'as pas prévenu Rachel, parce qu'il est marié avec une fille.
Oui, Rachel. Alors, négocier un petit peu.
Et puis voilà, on est en 2022, on va pas se compliquer la tête non plus.
Hein. C'est un trouble. Mais en tout cas, ça fonctionne vraiment très très bien et c'est très intéressant ce que vous dites. C'est-à-dire que l'un comme l'autre, finalement, vous êtes passé au-dessus de pas du caractère sacré, mais disons
si,
le...
Si, pour moi c'est sacré.
C'est le respect de l'œuvre de
pour
chacun.
Pour moi c'est sacré, quand je vois des expos de photographes, je suis là, je dis, oh. Et puis je les envie, parce que moi, tous les endroits où il est allé, en gros, j'y suis allé. Mais moi, je suis un gars, je survole. Moi, c'est un ambassadeur, un conseiller culturel qui me présente les dessinateurs du coin. Oh, salut, comment tu fais? Jusqu'où tu peux aller? Ça, c'est mon boulot sur tous les continents, depuis 35 ans. Mais lui, c'est pas pareil, il est sous les bombes. Moi, ça m'est arrivé d'être pas loin des bombes. Enfin, faut pas exagérer. Quand je vais à Gaza, oui, je me souviens que j'avais entendu des bombes qui étaient à 500 mètres, mais c'est pas pareil. Lui, il est dessous. Et il raconte quelque chose. Alors, où je rejoins ce que disait Reza tout à l'heure, c'est vrai que j'essaye d'imaginer ce qui se passe dans la tête du photographe qui vit un événement. Et puis, j'ai aussi la chance de discuter beaucoup avec les journalistes qui sont allés sur le terrain. Et ils me racontent des tas de choses que des fois, ils ne mettent pas dans leur papier, ils ont tort. Et moi, je dis, oh là, mais ça, c'est bien pour moi. Et donc, je le raconte à ma manière du gars dont on pense que, évidemment, je ne suis pas le gars spécialiste. Je ne suis pas allé au moment où il se passe un événement. Mais je suis nourri de toutes ces conversations, des photographes, des journalistes, des rédacteurs en chef. Et à chaque fois, je me dis, tiens, et j'imagine quelque chose. Et comme tout le monde, les lecteurs, les lectrices, ils savent que c'est un dessinateur, donc il invente. Oui, il invente. Mais des fois, c'est assez proche de ce qui se passe sur le terrain. Alors que je crois inventer. Je crois dire, oh, je vais délirer là-dessus. Mais en fait, des fois, c'est exactement ce qui est passé sur le terrain. Alors, je n'ai pas de boule de cristal hein, non plus. Mais des fois, ça marche. Voilà, ça ne marche pas toujours, mais des fois, ça marche.
Mais c'est vrai que c'est vraiment très, très troublant et faut le signaler parce que c'est vrai que l'intérêt du livre, c'est aussi on vous lit, on revoit certaines de vos photos, certains de vos dessins, mais on vous lit aussi, pour rejoindre un peu ce que vous disiez, Plantu, c'est que pour chaque dessin, pour chaque photo, il y a un texte de l'un et de l'autre, un texte de Reza qui permet de revenir un peu sur les circonstances de la photo. Pourquoi vous avez pris la photo à ce moment-là ou quelles étaient les circonstances? Puis il y a un petit texte de vous, Plantu, pour dire ben voilà, dans quel état d'esprit moi j'étais à ce moment-là quand j'ai fait le dessin. Ce qui fait que ça permet d'avoir vos deux regards, d'avoir vos deux analyses et d'avoir ce que vous offrez pas toujours dans votre travail habituel, c'est-à-dire les quelques mots qui permettent de
et puis le fait d'avoir le choix de dire « Ah mais moi, cette photo-là, quand tu as cette photo de Prométhée avec un oiseau qui l'a piqué, à un moment, l'oiseau s'envole et il y a une statue de Prométhée, il fait la photo à ce moment-là. Bah, oh, c'est formidable. » Et puis moi, je dis « Mais attends, moi j'ai un Prométhée, moi aussi. » Et donc j'ai un Prométhée irakien. Et puis on les met ensemble, et puis je fais un fondu enchaîné avec les couleurs, avec le pastel, avec... et en fait ça fonctionne. Et puis il raconte comment il a fait cette photo, et moi je raconte comment j'ai aimé jouer avec sa photo, et comment je me dis, ah ben oui, finalement, je vais pouvoir le marier avec une autre image qui raconte quelque chose qui est lointain, mais pas si lointain. Et c'est pour ça que je pense souvent que quand il se passe quelque chose, il y a une osmose dans le travail du dessinateur. Hein, parce que quand le dessinateur il fait un dessin, il mélange souvent deux choses qui n'ont rien à voir. Mais là, on mélange un photographe et un dessinateur, et à la fin, on propose quelque chose qui nous surprend, c'est encore autre chose. Comme vous disiez tout à l'heure, c'est on propose une œuvre qui regarde les deux autres en disant, vous voyez, j'ai inventé quelque chose d'autre. Dans votre complicité.
Absolument. Je trouve que c'est la vraie force du livre. Hein. Vous avez trois choses pour le prix de deux. Quoi.
Et merci à Gallimard d'y avoir cru dès le début, parce que, en fait, quand on leur a proposé, ça a été réglé en... Il y a des fois des auteurs, ils ont du mal à se faire éditer. Alors nous, ça a été réglé en 5 minutes. Ils ont dit, ouais, on prend. c'est quand même... Ça fait du bien.
Je le disais, vous abordez beaucoup de sujets dans ce livre. Est-ce qu'il y a des sujets qui vous tiennent particulièrement à cœur, l'un et l'autre? Ou...
C'est vrai qu'il y a beaucoup de différents thèmes, mais le fond de tout, c'est pour moi, ça vient au mot paix ou injustice sociale et que inégalité, là,
inégalité.
Inégalité, enfin, les fondements de tout le problème aujourd'hui des êtres humains, c'est inégalité, c'est injustice sociale. Même les guerres, c'est quelque part, c'est né à cause de cette injustice sociale et inégalité. Donc, et en ayant ça comme les fondements de mes actions, le fondement de ma pensée, un jour je le trouve en Afghanistan, l'autre jour je trouve ça en Israël ou Palestine, un autre jour je trouve ça en Afrique. Mais le fondement, c'est la même chose, c'est que je crois fortement que les problèmes humains continueront jusqu'à ce qu'il y aura inégalité et injustice sociale. Et que le moment où on arrivera à trouver des solutions, comme beaucoup des religions, beaucoup d'idéologies, ils ont tous essayé de régler aussi ces deux problèmes, inégalité et injustice, mais pour le moment, on n'a pas trouvé des solutions. Donc pour moi, les thèmes que j'aborde, c'est lié à ces deux mots, enfin, quelque part.
Et à force de parler de paix, comme si on était, évidemment, on vit ça un peu comme une vision d'une gauche qui dit « Ouais, on va changer tout ça, c'est pas juste, ils font des inégalités, on va régler ça, on va proposer... Et puis, quand on voit des guerres, on dit bah, « Pourquoi il y a des ventes d'armes ?» Donc, il y a un désir de gauche. Bon, d'accord. Et puis, ça m'arrive souvent qu'on se foute de moi. On dit « Ah oui, tu aimes la paix. T'es gentil, toi. Tu vas... » Mais on va gagner. C'est-à-dire que, en fait, je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'il y avait des injustices ou des inégalités ou des guerres, mais ça n'a qu'un temps. Il y a un moment, les deux protagonistes des conflits qui font les coqs du village comme ça en disant on va être plus fort, il y a un moment ils font la paix. Ce qui est intéressant, c'est que au moment où je fais un dessin et au moment où Reza fait sa photo, on se dit bon, c'est mal barré, c'est vraiment scandaleux ce qui se passe, et on est un peu on pense que à ce moment-là, ça ne va pas être simple et qu'on est pessimiste. Mais partout où je suis allé à chaque fois, c'est ceux qui négocient la paix qui vont l'emporter. Je ne dis pas que je vois avec une boule de cristal dans le temps, mais tout ce qu'on désire et qu'on rêve dans ce livre de mariage avec les photos et les dessins, mais ça va arriver. Ça va évidemment arriver.
Ça veut donc peut-être que dans 50 ans, là, on repensera à la photo sur laquelle vous avez travaillé tous les deux, là, à partir d'une photo prise par Reza, où c'est sur l'esplanade des mosquées, je crois.
Oui, ça, ça,
vous avez essayé de...
Les trois Abraham, c'est ça, là. Mm-hmm. Oui, c'est exactement dans cette idée, dans ce concept, parce que peut-être même, je dirais que des fois, les gens, ils me posent cette question en disant, mais... Comment, avec tout ce que vous avez vu, vous souriez encore? Comment vous arrivez à accepter le monde et sourire avec tout ce que vous avez déjà vu, tous les malheurs de l'humanité? Je dis oui. Mais justement, c'est ça qui me rend optimiste, parce que quand je compare dans l'histoire comment on est arrivé ici, et ben, je dis, ah, génial, ça va en améliorant. On va dans la bonne direction. L'humanité, il va dans la bonne direction, il va y arriver, comme ça est arrivé en Europe. Le même exemple qu'ils ont. Je travaille de temps en temps avec Télévision Arte, et le bâtiment de Arte à Strasbourg, il se trouve près d'un canal, et que dans l'histoire, il y a eu des massacres incroyables, des guerres des Français-Anglais sur ce canal. Et là, quand je vais chez Arte à Strasbourg, dans le bâtiment, vous entendez français et allemand qui est parlé. Et quand vous allez dans le restaurant de télévision manger, eh ben vous êtes sûr que autour de table, il va y avoir un Allemand et qu'ils sont assis, ils discutent, ils font des films, ils préparent des idées. Et chaque fois que je vais là-bas, j'ai dit, oh là là, un jour, on va faire la même chose en Moyen-Orient, on va voir ça entre les Pashtuns et les Tadjiks. Ça va arriver.
En Azerbaïdjan.
Entre les Arméniens
et les Arméniens. Évidemment. Mais évidemment, bien entendu.
Donc c'est pour ça que je suis optimiste.
J'accepte l'idée d'indécence. Parce que pour certains, quand je dis qu'évidemment il y aura la paix, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est indécent ce que je dis. Oui, c'est pour ça que je suis très fier de dessiner des colombes de la paix qui énervent. Parce qu'en fait, c'est elle qui va l'emporter. C'est tellement plus facile de dessiner une Kalachnikov, un tank, bon d'accord, très bien. Mais moi, je veux en plus rajouter une colombe qui énerve. Et le but de cette colombe, c'est d'énerver, de faire la paix bien sûr, mais à la fois d'énerver tous ces gens qui sont persuadés que non, on va pas se laisser faire, on va sortir les Kalachnikov et on va y aller. Non, ben oui, d'accord, mais tu vas te calmer un jour. Un jour, Arafat, il m'avait dit, les combattants, un jour, ils seront fatigués. Ils seront fatigués.
C'est une jolie formule. C'est vrai que votre ouvrage, il permet de revenir de manière souvent poétique, je trouve, sur les plus graves questions de notre temps. Et c'est vrai que c'en est parfois un peu désespérant, mais c'est ce que vous dites. Il y a tout de même des messages. Il y a à la fois de l'humour dans les dessins, notamment, mais dans la photo aussi. Il peut y avoir des notes d'humour comme ça. Et puis, il y a quand même des messages d'espoir. Vous y tenez, quoi. En tout cas, pas rester sur un constat désespérant.
Bah, sur Israël-Palestine, il y a ces trois qui s'appellent Abraham, trois religions qui s'appellent Abraham, tous les trois, avec des consonances différentes. Et puis à côté, j'ai un petit Israélien, un Palestinien qui sont sur une balançoire. Et puis, les balançoires, elles sont curieusement accrochées. Et le nom, c'est un proverbe arabe, qui dit « les balançoires les plus solides sont celles qui sont accrochées aux étoiles ». Voilà, ça. C'est de la poésie, c'est un proverbe arabe, et puis moi, ça me plaît.
Une belle utilisation du bleu.
Exactement. Le bleu, ouais, il y a beaucoup de choses à raconter sur le bleu. Le bleu, pour moi, c'est vrai que c'est... Le bleu, est toujours, il y a quelque chose de réconciliateur dans le bleu.
Oui, c'est aussi...
Je connais pas les raisons.
C'est le ciel et la mer aussi.
C'est la mer.
Le ciel.
Le ciel.
Ouais.
Et puis, il y a beaucoup de bleu qui est utilisé au moment où l'ONU a été créée.
Absolument.
C'est vrai que le bleu a été...
Alors, ce livre aussi, c'est l'occasion d'avoir, c'est très intéressant, des biographies pour une fois un petit peu détaillées des auteurs. De chacun de vous deux, à la fin. Moi, j'ai appris des choses sur chacun de vous deux. Et je me suis dit, mais il y a beaucoup de personnalités qui accordent leur soutien à des causes portées par des ONG, par des associations. Mais je trouve que ce qui vous réunit aussi, j'ai envie de dire, c'est que vous allez bien plus loin. Vous avez depuis longtemps un engagement personnel et très fort pour certaines causes. Reza, vous avez fondé l'ONG AINA en Afghanistan pour former des jeunes à l'image, à la photographie, trouver un boulot, trouver une voie. Et vous organisez toujours, tout le temps, des ateliers dans le monde entier pour aider des jeunes à s'en sortir. Et je peux témoigner, puisqu'on a travaillé ensemble, que voilà, vous n'avez pas hésité à nous aider, à illustrer un numéro de notre revue quand on était tout jeune, et on l'est encore. Et je vous en remercie, du coup, en passant. Plantu, vous avez fondé la très belle ONG Cartooning for Peace, qui défend la liberté d'expression des dessinateurs de presse dans le monde. Vous avez lancé récemment une fondation qui vient aider les jeunes oubliés de la République. J'ai bien aimé la formule. Bref, j'avais envie de dire, mais pourquoi vous en faites autant ? Au-delà des personnalités qui donnent simplement leur image, c'est déjà beaucoup.
Alors, je vais dire un truc gentil et émouvant pour Reza, parce que lui, c'est un vrai geste intellectuel d'un gars qui dit, bon, qu'est-ce que je vais faire pour les autres? Qu'est-ce que je vais faire pour aider les autres? Construire une revue comme tu l'as fait à Kaboul, pour mettre des articles, des dessins, des photos. Et moi, gros flemmard, j'ai pas vu venir les choses. C'est parce que les Danois ont été, ont reçu des fatwas, les dessinateurs danois ont reçu des fatwas en 2006, que Kofi Annan a pris son téléphone en me disant « Allez, faut que tu viennes avec des dessinateurs chrétiens, juifs, musulmans. » Je dis « Attends, moi je sais pas faire. » Et puis après, il m'a rattrapé par la manche, il m'a dit « Oui, c'est bien de les avoir fait venir à New York, mais il faut que tu fasses une association. » Je dis « Mais je sais pas faire. » Et donc, je suis un paresseux contrarié, parce qu'en fait, ce que j'aime, c'est faire les dessins, être tranquille. Et finalement, grâce à Kofi Annan, grâce à tous ces dessinateurs chrétiens, juifs, musulmans, agnostiques et athées, je me suis dit, mais c'est intéressant. Et donc, j'ai inventé une sorte de paquebot, sans m'en apercevoir. Et ce paquebot permet de préfigurer ce qu'est pour moi l'idéal du débat, faire un débat avec les gens. Et finalement, je me suis rendu compte que c'est plus un problème corporatiste de dessinateurs qui défendent la corporation. Je m'en fous, la corporation, c'est pas mon truc. Je me dis, mais ça sert à tout le monde. Parce que les lieux de réflexion qu'on a inventés avec les dessinatrices tunisiennes, vénézuéliennes, des dessinateurs de Moscou ou de Nouvelle-Zélande, on s'est rendu compte qu'on est en train de créer des débats qui peuvent servir aux citoyens de la planète. Et du coup, je me retrouve à rejoindre mon copain Reza, et je me rends compte que lui, il fait ça, mais je dirais plus de manière intellectuelle. Moi, j'ai été un peu bousculé, on m'a dit « Allez, il faut que tu viennes ». Je dis « Bah oui, non, je vais le faire, bon, d'accord, vous voulez, je vais le faire ». Alors que lui, il était plus le promoteur d'une vraie idée qu'il avait en tête, de tendre la main vers les autres, alors que moi, je l'ai fait un peu comme quelqu'un qui n'a jamais fait de bénévolat, et qui dit « Bon, bah, ouais, on va faire ça, on verra bien ». Et puis finalement, c'est génial. Parce que c'est vraiment du bénévolat. Hein. Comme vous, avec votre revue, c'est du bénévolat. Et je ne connaissais pas du tout le milieu des ONG. Alors, je me suis retrouvé avec Reporters sans frontières en Thaïlande, dans des camps de réfugiés Khmer. Alors, je voyais ça, j'étais admiratif. Mais moi, c'était il y a 30 ans. Et je me voyais pas faire moi-même le travail d'une ONG. Puis en fait, oui, si on le fait. Et puis en plus, ça nous permet de mieux comprendre la planète et savoir mieux comment on peut essayer de positiver les choses. On voit le côté négatif. Et d'ailleurs, sur les ventes d'armes, ça encore un sujet où on est d'accord tous les deux. Tout le monde s'en fout des ventes d'armes. Par contre, quand il y a un porc qui est maltraité dans une porcherie, alors là, c'est un drame, ça passe aux 20 heures. Mais d'accord, c'est vrai qu'il y a des poules, des vaches, des porcs qui sont maltraités dans les abattoirs. Je suis d'accord. Mais les ventes d'armes, c'est quand même un sujet qui est quand même un petit peu colossal. Et quand de temps en temps, oui, il y a au Yémen, il y a des trucs, il y a des bombes qui tombent sur les Yéménites. Ben oui, mais c'est des armes qu'on a vendues, nous. C'est nos armes françaises qu'on a vendu à l'Arabie Saoudite. On pourrait peut-être en parler un peu de temps en temps. Et donc, c'est dans le bouquin.
Et en tant que photographe et de dessinateur, vous êtes effectivement soumis au diktat, d'une certaine manière, de l'actualité. Mais est-ce qu'il y a des sujets oubliés, des causes, des thématiques sur lesquelles, qui selon vous, passent sous les radars des médias et sur lesquelles il faudrait, vous voudriez?
De mon point de vue, l'actualité et les médias, ils fonctionnent comme un cortège de festival qui passe dans les rues, et que chaque fois qu'il passe dans les rues, les gens ils s'intéressent. Mais une fois qu'il est parti, le show est fini et chacun y va de son côté. Malheureusement, l'actualité est traitée comme ça dans nos médias. C'est-à-dire que un jour, il se passe quelque chose à Kaboul et que tout le monde est à Kaboul. Il faut parler de ça, regarder ce qui se passe et autres. Ensuite, trois jours après, il se passe à Beyrouth. Tout le monde va à Beyrouth. Le Kaboul, il continue. Mais on n'entend plus parler. Après Beyrouth, on va 3 jours en Afrique, sachant que Kaboul et Beyrouth, ça fait des années qu'ils continuent, mais qu'ils ne sont plus sous les lumières de projecteurs de médias. Donc, et tout ce que moi j'ai fait personnellement et dans ces 40 ans, certes, j'étais photographe de Time Magazine, de Paris Match, un moment de Life Magazine, de National Geographic, mais j'ai gardé cette indépendance toujours. Pourquoi ? Parce que des fois, il y avait des sujets que moi j'avais envie d'aller photographier ou être là, et qu'aucun média ne voulait pas, pour les différentes raisons. Si j'étais, lié à un journal ou à une revue, quelque part, je devais me soumettre à leur demande. Or, en étant indépendant, je suis toujours arrivé à aller au moins mettre le petit projecteur, je dirais même mon objectif, sur les sujets que personne n'en parlait. Pendant 10 ans après que les Russes ont quitté Afghanistan en 89, pendant 12 ans, je suis allé en Afghanistan, je suis revenu en France, en Europe, aux États-Unis, en disant attention, il faut s'occuper des Afghans, il faut s'occuper des Afghans, il ne faut pas les laisser partir. Ce n'est pas parce que les Russes ou les communistes ne sont plus là, ça y est, vous avez gagné la bataille, et maintenant on laisse les Afghans. Je veux dire, il se passe des choses là-bas, ça va frapper à nos portes, et 2001, paf, ça a frappé à notre porte. Le monde entier, d'un seul coup, s'est réveillé. Tout le monde dit Afghanistan, Taliban, Al-Qaïda, c'est quoi ces noms, à quoi ça sert? Et ça faisait 12 ans que moi, je donnais ça à tout le monde. Enfin, j'ai essayé je fais la même chose depuis 1 an et demi en Azerbaïdjan, dans la guerre d'Azerbaïdjan-Arménie, parce que le média, il ne parle que du côté arménien. Et personne ne veut voir la réalité sur terrain ou ce qui se passe en Azerbaïdjan. Donc, je vais là-bas et je photographie et je vais montrer. J'arriverai à en faire quelque chose. Je crois que la façon aussi que j'aime dans un travail de dessinateur, c'est qu'il arrive toujours à dépasser les dictats de l'actualité, les dictats de médias, le dictat de rédacteur en chef qui disent, et trouver un moyen de dire ce qu'ils pensent. Donc c'est là aussi qu'il y a une indépendance, c'est ça.
Et grâce à nos conversations, ouais, grâce à vous, le fait de parler à ta manière de l'Azerbaïdjan, parce que bien entendu qu'il faut pleurer sur les Arméniens quand ils subissent des exactions, il faut les aider, il n'y a aucun problème. Et à la fois, côté Azerbaïdjan, là, il est tout seul quand il veut montrer qu'il y a des sculptures, des fresques, des tombes en Azerbaïdjan qui ont été souillées par des combattants minoritaires, mais efficaces, du côté des Arméniens. Quand il fait les photos, tout le monde s'en fout. Et moi, je dirais que quand tu es tout seul, alors qu'il y a 80 photographes côté Arménie, bon, lui, il est tout seul, ou doit être une poignée à faire le boulot pour témoigner de ce qui se passe. Et ben là, on se rend compte que le marketing des médias fait que, ouais, mais tant t'es gentil, Coco, ouais, je t'aime bien, Reza, ouais, c'est bien, continue, reste à Bakou, mais ils n'utilisent pas ces photos. Alors moi, j'aimerais bien le faire en dessin. Je me débrouille comme je peux, mais le seul biais, c'est de le raconter comme ça dans les interviews. Parce que moi, si je fais un dessin sur une tombe qui a été mutilée par les Arméniens en Azerbaïdjan, mais tout le monde va dire, attends, c'est quoi
Bien sûr.
Tu racontes quoi? Mais tu rêves?
Bien sûr.
Il faut pleurer que sur les Arméniens. Je dis, ben oui, non, moi j'ai envie de pleurer sur les deux. J'ai envie de pleurer sur les Azéris, dont la plupart sont musulmans, et envie de pleurer sur les orthodoxes qui sont arméniens de l'autre côté. J'ai envie de pleurer sur les deux. J'ai pas envie qu'on me mette dans une petite case. Et si moi je fais un dessin sur le côté Azerbaïdjan, ça n'intéressera personne. Et même pire, non, mais pourquoi, il se passe quoi? Parce qu'ils ne sont pas informés. Ça, c'est encore un autre sujet gravissime que j'avais découvert en posant des questions au directeur du Monde il y a 2-3 ans. Et il me disait sur les clics, le nombre de gens qui sont abonnés au monde.fr, dont il était très content, et il a bien raison, parce que ça marche très bien. Parfait. Mais je dis, mais parlons pas du Monde. Dis-moi, Jérôme Fenoglio, le directeur du Monde, dit, mais dis-moi, est-ce que tu penses que par rapport à il y a 30 ans, est-ce que les gens, ils sont mieux informés ou moins bien informés? Et il me répond, cette phrase incroyable, mais je m'en suis parmi. Il me dit évidemment que bien entendu que non. Il y a une censure qui existe, mais qui n'est pas avec un monsieur censure qui dit ouais, tu vas faire. Non, c'est pire que ça. C'est l'argent du marketing et de l'audimat qui fait que tel média va parler de ça parce que c'est vendeur, et il ne va pas en parler parce que c'est l'info. Non, il va en parler parce que c'est vendeur. À partir de là, c'est foutu. Donc, on va faire péter la baraque. Je ne sais pas comment. À part des photos et des dessins, je ne sais pas comment le faire. Tiens, regardez, cette photo, elle est intéressante. Parce que, alors je l'ai faite à partir... j'ai pas fait la photo, j'aurais bien aimé faire la photo. C'est un vieux militant pro-soviétique.
Oui, c'était un ancien soviétique.
Voilà, qui a gravé un tatouage avec Lénine, Staline, tout ça. Je dis, ah, mais moi, ça m'intéresse, parce que moi, j'ai un dessin... avec un Staline qui se réveille, avec un Lénine, comme le mausolée, tout ça. Et puis, je l'avais fait à l'époque de Yeltsin, dans les années 90. Et qui dit quoi? Il dit coucher. Et ça, c'est intéressant de retrouver ce mariage de la photo et du dessin. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus Yeltsin, il est mort. Mais maintenant, c'est Poutine. Mais il ne dit pas coucher, il dit debout, debout les gars. Et donc, ça devient un élément de réflexion différent. Ah oui, ça bouge, et en fait, c'est un dessin qui bouge, c'est une photo qui bouge, mais qui fait que notre planète, elle bouge en disant « Là, c'est pas bon parce qu'ils sont en train de réveiller Staline. » On ne dit pas qu'ils vont réhabiliter totalement Staline, mais il y a quand même des signes forts du côté de Poutine qui ne me plaisent pas.
Il y a aussi, à côté du tatouage de ces quatre, au fond, ce qui m'intéressait aussi, c'est qu'il a un collier, un croix dessus. Donc, il a tatoué Marx, Lénine, Staline, Engels sur sa poitrine, mais au-dessus il a mis un collier et un croix dessus.
Donc, en fait il est copain avec tout le monde.
Mais effectivement je parlais tout à l'heure des textes que vous écriviez à côté des photos, et par exemple là, moi en tout cas je l'ai appris, que les prisonniers se faisaient tatouer.
Autant de soviétiques, oui.
Autant de l'Union soviétique qui se faisait tatouer ce tatouage, ce dessin, pour éviter
d'être fusillé,
de recevoir une balle.
Oui, parce que aucun soldat n'aurait osé de tirer sur ça. Donc c'était beaucoup des prisonniers de Goulag, et qu'ils avaient peur d'être fusillés. Ils faisaient tatouer ça. Et le moment où elle allait fusiller, ils ouvraient ça en disant « Allez-y ».
C'est-à-dire qu'en préparant cet entretien, je repensais à ce que me disait William Daniels, qui est un photographe, qui a vécu une douloureuse expérience en Syrie, il y a quelques années. Il me disait ça dans l'interview qui est dans l'avant-dernier numéro de notre revue. Et il disait qu'à un court moment, il en avait voulu à son métier de l'avoir mis dans la situation dans laquelle il était à ce moment-là. Et Reza, vous êtes persona non grata, comme on dit en Iran. Depuis votre départ en 1981, les islamistes de Khomeini voulaient vous tuer. Vous avez souvent pris des risques après sur vos reportages en Afghanistan, au Pakistan. Plantu, je crois que depuis l'attentat contre l'équipe de Charlie, vous êtes ou vous avez été à un moment donné sous protection policière.
C'est encore le cas.
Toujours.
Vous l'êtes toujours.
Et il y a des expos que j'aurais voulu faire. Là, je vais en faire une à Beyrouth, au Liban, mais il y a eu un moment, c'était tellement tendu à propos des caricatures, que même l'ambassadeur m'a téléphoné en me disant « Écoutez, là, il y a des barbelés autour de l'ambassade, il y a des sacs de sable, on se protège, c'est pas le moment. Islamabad, au Pakistan, je devais faire une expo. Même encore aujourd'hui, je pense que c'est pas de mal avec que je ferai une expo à Islamabad. »
Voilà, vous me confirmez le prix tout de même à payer. Est-ce que l'un et l'autre, vous en avez voulu à vos métiers respectifs à un moment dans votre vie?
Écoutez, moi je me voyais mal de voyager sur une yacht et de faire le shish kebab, de tourner sous le soleil et faire la plage. Je me vois mal de ne pas faire ce que je fais. Je vois mal de, une fois qu'on a connu un événement, on devient quelque part responsable de le transmettre, de transmission, de, vous voyez ce que je veux dire? Donc, à partir du moment où vous étiez sur terrain, vous avez rencontré des gens, leurs histoires, et ce métier, ce n'est plus un métier pour moi, depuis longtemps, enfin, depuis jamais été. Je suis architecte de formation. Si je voulais un métier, j'aurais continué mon architecture. Ça, c'est presque quelque chose de très, très fort intérieur. Je ne sais pas par quel miracle, je ne crois pas au miracle, mais je ne sais pas par quel moyen mes photographies, j'arrive à raconter des histoires qui touchent tellement des gens et qui créent une telle réflexion et émotion chez les autres pour s'occuper de ces histoires, pour s'occuper de ces gens-là. Donc, tant qu'il est là, je vais continuer et je me souviens même pas dans les moments les plus difficiles, dans les moments les plus dangereux, le moindre doute de ce que je fais. Donc, vraiment, je ne me souviens pas avoir le moindre doute, comme je disais, dans le moment le plus difficile et dangereux que je fais ça.
Ouais, bah, je me suis même pas posé la question. Parce que dessiner, c'est pour ça que c'est tellement naturel pour moi. À un moment, je me suis dit, je vais peut-être dessiner sur le coussin. On est chez Gallimard, ils vont peut-être faire des histoires, ils vont peut-être pas aimer, il y a peut-être une histoire sur le coussin. Je me dis, bah, je vais prendre un... Et le dessin, c'est ça. C'est d'improviser sur un petit truc comme ça. C'est naturel, le dessin.
Ça fait vraiment plaisir de terminer sur ce moment. Voilà, bah vous avez bien fait de ne pas en vouloir à vos métiers respectifs et de continuer. Voilà, merci beaucoup. Et en plus, je gagne un super dessin. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez retrouver le livre de Reza et Plantu, Regard croisé, dans toutes les bonnes librairies. Et si vous voulez en savoir plus sur la revue, rendez-vous sur le site alternative au pluriel-humanitaire au pluriel.org. À bientôt.